Jean-Marie Bernard, bonjour.
Bonjour.
Président du conseil départemental des Hautes-Alpes, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'école rurale est délaissée dans les Hautes-Alpes? Est-ce que vous avez le sentiment que GAP est la variable d'ajustement de l'académie? Je fais bien évidemment référence à la grève de la faim de Roger Didier pour défendre cette 12e classe de l'école Porte-Colombe. Variable d'ajustement, GAP, c'est lui qui le dit. École rurale délaissée, c'est le Rassemblement national en PACA. Alors est-ce que la ruralité est au second plan de l'éducation nationale?
C'est pas l'analyse que je fais aujourd'hui de la situation. Je veux dire, l'école, c'est toujours un problème important pour toutes les maires. Il y a une centaine de maires dans le département qui ont une école. Donc moi, en tant qu'ancien maire d'une commune rurale, dans le Dévoluy, j'ai subi ce genre de problème où on fermait pas une classe, on fermait une école. Donc quand on ferme une école, c'est un vrai problème parce que il y a un pan de la démocratie, de la vie dans la commune qui disparaît. Donc ça, c'est un vrai problème. Sur l'école de Porte-Colombe à Gap, c'est une classe qui est fermée provisoirement, probablement, sur une douzaine. Donc le problème est complètement différent. Donc moi, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, la ville de Gap soit la variable d'ajustement dans le processus de mise en place de l'école rurale.
L'un des gros sujets de la rentrée pour le département, ce sera les routes. L'article 38 de la loi 3DS, la loi de simplification, etc., prévoit que certaines nationales soient transférées au département. Il y a une liste qui a été publiée en mars. Alors, pour les Alpes-de-Haute-Provence, ce serait la nationale 85 et la nationale 202. Pour les Hautes-Alpes, on parle aussi de la nationale 85 et de la nationale 94. Vous y êtes favorable à ce que ces nationales viennent sous le giron départemental?
Bien, aujourd'hui, le département comporte 153 km de route nationale et 2000 km de route départementale. Donc cet axe, qui est important, puisque c'est la liaison entre Gap et Briançon, doit naturellement être rapatrié vers le département, mais pas à n'importe quelle condition.
Pas n'importe quel prix.
Aujourd'hui, et c'est ce que je conteste, c'est que l'État dit « je vous redonne les routes nationales et c'est moi qui en fixe le prix ». C'est pas ça la discussion. La négociation, c'est un, on me demande mon avis, moi je réponds favorablement parce qu'en termes de gestion, c'est une bonne idée que de rejoindre ces deux réseaux, mais en termes de négociation de prix, il n'y a pas que l'entretien. Les travaux qu'il faut réaliser sur ces 150 km, il faut les prendre en compte.
Alors quoi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire une étude pour savoir combien ça va coûter au département?
Ah, mais je le sais à peu près aujourd'hui.
Combien?
Si on n'a pas 100 millions d'investissements à faire dans les 20 ans sur la route nationale 94, eh bien on laissera dépérir le réseau et donc c'est pas acceptable pour le département.
Donc l'État doit vous donner 100 millions d'euros?
Non, je ne demande pas ça. Je dis simplement qu'il faut qu'on prévoie des nouveaux investissements à réaliser sur cet itinéraire et que l'État vienne m'aider à mettre en place ces investissements.
Soit garant des travaux, tout simplement.
Soit garant des travaux.
Et donc, quelles conditions pour la rocade de Gap? Qui est quoi? Qui est une nationale, une départementale,
aujourd'hui,
communale?
Aujourd'hui, c'est un peu le serpent de mer, la rocade de Gap, parce que les collectivités, dans un cadre très précis, avec l'État, la région, la ville de Gap, le département s'est engagé pour financer une rocade qui devait coûter 30 millions d'euros. Bon, aujourd'hui, avec 10 ans de retard, ces 30 millions se sont transformés en plus de 50 millions d'euros et on est toujours aux pieds et poings liés dans cette affaire-là. Pour les tronçons suivants de la rocade de Gap, moi je suis plus dans le coup. Je veux dire, les règles du jeu ont été modifiées et par l'État et par la région. Et donc aujourd'hui, moi je demande à voir.
Mais donc vous ne vous engagez pas sur quel tronçon aujourd'hui?
Je ne m'engage pas sur le deuxième ni le troisième tronçon de la rocade de Gap.
Donc il n'y aura pas de financement du département?
Attendez, sauf si on arrive à discuter avec tous les partenaires, mais pas une discussion, c'est quand on se met autour d'une table et qu'on parle.
Ils doivent vous dire quoi alors les partenaires, pour vous rassurer?
Pour me dire qu'est-ce qu'on fait, il n'y a plus de contrat de plan État-Région pour financer d'autres travaux sur la 1075. Donc, parce que dans ce contrat de plan, il y avait une participation de l'État, il y avait une participation de la région. Et à charge du département, il nous restait, bon an, mal an, 30 ou 40% du coût de l'investissement. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc, ça veut dire qu'on me dit à moi, président, débrouille-toi pour financer tes projets routiers sur tes routes. Je vais m'occuper de mes routes en priorité.
Celles qui ont lieu actuellement. Les agents de la DIRMED, du coup, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vous allez les récupérer?
Écoutez, le transfert des agents de la DIRMED, qui sont des agents de l'État, comme ça s'est fait il y a quelques années quand on a transféré déjà des personnels de la DDE pour les faire venir vers le Conseil Général, ils ont eu la possibilité de garder leur statut d'agent de l'État mis à disposition. Et puis, au fil du temps, les nouvelles embauches sont des employés du département, donc une fonction publique territoriale au lieu d'être une fonction publique d'État. Donc, ce n'est pas un gros enjeu parce que les personnels n'ont rien à craindre. Enfin, ceux qui ont fait qui ont déjà subi ce transfert depuis le transfert de la DDE, oui. Aucun agent ne s'en plaint.
Donc, ce n'est pas un enjeu non plus pour les agents des collectivités, les agents du département qui travaillent actuellement sur les routes.
Non, c'est pas un enjeu, non.
La facture énergétique, toujours plus salée pour les collectivités. Selon l'Association des Petites Villes de France, les dépenses énergétiques de certaines communes ont bondi de 50%. Pour les stations de ski, on a parlé des ors notamment qui s'inquiètent. On parle d'un mur financier, une facture multipliée par 17. Alors, comment on va sortir de cette nouvelle crise ?
Eh bien, c'est l'affaire de Macron, ça.
Au moins, c'est résumé. C'est une affaire de l'État.
C'est une affaire de l'État, mais enfin,
qu'est-ce qu'il doit faire ?
Aujourd'hui, on est dans une situation où on produit moins d'énergie, et notamment d'énergie nucléaire qu'on en produisait avant. On a indexé le prix de l'énergie sur le prix du gaz. Mais ça, c'est bien des décisions de l'État. Enfin, c'est EDF, ça appartient à qui ? C'est l'État. Donc, c'est vraiment une politique du gouvernement qui est une caractéristique de ce qu'il fallait pas faire. Donc, aujourd'hui, ben, c'est le problème de l'État. Mais ça met en difficulté aujourd'hui toute la vie économique de notre département, enfin de nos départements, de nos territoires, parce que vous venez de le rappeler, la facture énergétique sur les domaines skiables, ben ça passe de 300 000 euros aux ors, de 300 000 euros, ça peut aller à 3 millions. Donc quand on
pour une station qui fait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Ben oui, mais qui doit dégager après impôt peut-être une bonne année, peut-être un million de résultats, ben 1 million de résultats plus 3 millions de charges supplémentaires. Ben,
La solidarité territoriale, c'est l'une de vos compétences ?
Non. Non, la solidarité territoriale, pas à ce niveau-là. Ça, c'est l'économie, ça. C'est l'économie pure et dure. Donc, un domaine dans lequel je ne peux pas intervenir. Moi, je dis simplement sur une question politique, parce que j'ai quand même le droit d'avoir une opinion citoyenne là-dessus. Et c'est pour ça que je vous renvoie vers l'État et vers le gouvernement qui n'a pas pris les bonnes décisions quand il fallait.
Alors parlons politique. Vous êtes membre, membre pas encore parce qu'il n'a pas été lancé, mais en tout cas dès le 14 octobre ce sera le cas. Nos territoires d'abord, le parti régional de Renaud Muselier. Vous avez co-signé cette tribune. C'est une chance pour le paysage politique ?
Ben oui, mais c'est une initiative que je salue, dont Renaud m'avait parlé il y a quelques temps déjà, qui est une bonne manière de faire vivre notre territoire et d'exister par rapport à...
D'être un lobby.
Un lobby par rapport au pouvoir central. Donc aujourd'hui, l'idée de Renaud Muselier, c'est au travers de cette réunion de toutes les forces vives, des gens qui travaillent aujourd'hui sur le développement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ben c'est une façon de tous se mettre ensemble, faire remonter les vrais problèmes pour qu'au niveau de l'État, on soit entendu comme des vrais ruraux.
Vous êtes toujours membre de Les Républicains. Vous avez quatre noms en face de vous. Aurélien Pradier, Bruno Retailleau, Éric Ciotti et Serge Grouard, l'un des inconnus, pour prendre la présidence de Les Républicains. Votre choix va vers qui ?
Mon choix, il n'est pas fait aujourd'hui, mais il y a des... Je pense que Monsieur Pradier est un jeune républicain qui a un spectre un peu large, qui a plein d'avenir. Et donc... C'est peut-être grâce à cause de mon âge que je me porterai plutôt vers le plus jeune de l'équipe.
Merci beaucoup Jean-Marie Bernard d'avoir été avec nous ce matin.